D'abord, bonjour à tous et bon dimanche. Bienvenue Laurent Joly et bonjour. Votre livre est vraiment un événement. Je suis heureux de vous accueillir. 80 ans après, l'Arabe du Veldiv de 1942 est raconté avec des témoignages inédits et vraiment bouleversants. On entend la voix des 13 000 femmes et enfants qui vont passer par Drancy, puis disparaître à Auschwitz. Et d'après votre enquête, vous avez travaillé quartier par quartier, immeuble par immeuble, de sorte que tout est incarné. On voit chacun des malheureux qui vont être raflés par la police française.
Oui, et on voit aussi ce qu'on ne voyait pas avant dans les travaux sur le sujet. On ne voyait pas la police. Et moi, j'ai voulu expliquer aussi l'Arabe du Veldiv comme une opération de police organisée, mise en œuvre avec ses ratés et aussi ce drame de 13 000 personnes arrêtées.
C'est-à-dire que c'est préparé de longue date, en détail, et puis il faut dire qu'il y avait l'accord du maréchal Pétain, que les décideurs étaient Pierre Laval et le fameux René Bousquet, et que les exécuteurs ou exécutants, c'était la grande majorité des policiers français.
C'était que des policiers français, c'était même que des policiers de la préfecture de police de Paris et pour l'essentiel des gardiens de la paix. Donc c'est une opération qui, dans son exécution, est 100% française, mais qui a été une codécision franco-allemande. Les Allemands ont imposé, ont demandé la livraison de 40 000 juifs en zone occupée. Vichy a accepté, Vichy aurait pu dire non. En Belgique, le maire de Bruxelles dit non. Il dit « je ne peux pas vous livrer des juifs, je n'ai pas le droit de faire ça ». Mais Vichy fait de la politique et Vichy veut se débarrasser du maximum de
juifs. Mais les Allemands n'apparaissent pas.
Les Allemands n'apparaissent pas du tout.
Il y a la pression qu'ils font. Mais ils n'apparaissent pas au moment des rafles.
Ça fait partie de l'arrangement, c'est-à-dire que René Bousquet, le chef de la police de Vichy, ne voulait pas que les Allemands soient là. C'était une question de prestige. Il y avait déjà eu des rafles en 1941. Ça avait été des opérations mixtes. Il y avait des soldats allemands, des policiers allemands et des policiers français. C'était jugé humiliant. Oui. Donc là, c'est une anomalie. Il n'y a aucun Allemand sur le terrain à Paris en juillet 1942.
Et on va voir tout à l'heure que des policiers français ont sauvé des Français. 4000 policiers vont procéder aux arrestations. Et vous racontez que c'est en deux temps, il commence à 4h du matin jusqu'à 9h30 et il recommence l'après-midi pendant les deux jours. Et il tape surtout dans les quartiers les plus pauvres. Ils arrêtent des milliers de gens qui vont mettre et qu'ils vont parquer dans des autobus qu'on est en train peut-être de regarder et ils vont en direction du Veldiv. Et là, rien n'est préparé au stade du Veldiv.
Oui, rien n'est préparé parce que, si vous voulez, à l'état-major de la police municipale, ils avaient fait des circulaires. Les gens devaient prendre 3 jours de vivres, devaient prendre des couvertures, devaient prendre des draps, etc. Mais les arrestations ne se sont pas du tout passées comme ça. Les arrestations, c'était terrible. Les femmes se débattaient, elles ne voulaient pas partir. Donc, les gens sont arrivés au Veldiv sans pratiquement rien. Et la préfecture de police et la préfecture de la Seine n'avaient rien prévu.
Et on voit les autobus avec les visages fermés, apeurés, avec la dureté des policiers. On les voit très bien dans les dessins que vous présentez, réalisés par Cabu, le regretté Cabu. À 29 ans, quand a été publié le premier livre en 67 de Claude Lévy sur l'Arabe du Veldiv, il en est bouleversé et il va montrer dessin après dessin et en noir et blanc la tragédie. Et c'est Véronique Cabu qui dit bien l'autobus, la petite fille, et le stade et toutes les horreurs. Cabu, on le rappelle, est mort le 7 janvier 2015, sous les balles de l'islamiste dans les locaux de Charlie Hebdo. Il disait « un dessin ne se regarde pas, ne se raconte pas, il se regarde » et il avait raison. Et dans le stade, vous montrez bien que c'est la peur, l'horreur, la terreur et même les odeurs.
Oui, parce que tout simplement, il n'y a pas de toilettes, enfin, il y a 3 toilettes qui sont bouchées. Il y a donc 8000 personnes qui sont là. Les adultes directement déportables ont été envoyés à Drancy. Et les familles, on les a mis au Veldiv parce qu'en fait, on ne sait pas encore ce qu'on va faire des enfants. Les enfants, ils auraient dû être mis à l'assistance publique. Donc en attendant de voir ce qu'on va en faire, on parque tout le monde sous la verrière du Veldiv dans des conditions ignobles, effectivement, une odeur terrible qui, de l'extérieur, se sent déjà.
Et une fois de plus, les pompiers de Paris vont sauver les Français. Ils vont sauver l'honneur des policiers. On a souvent alerté des juifs, si j'ai bien vu, avant l'opération, on allait voir chez eux des amis, des voisins. Et ce n'est pas Vichy qui a donc protégé les juifs.
Oui, l'une des découvertes que j'ai faites, c'est que dans la préparation de la rafle, j'ai compris qu'en fait, les objectifs ne concernaient pas les enfants. Donc vous aviez 27 400 fiches d'arrestation. Et au bout du compte, on n'en a arrêté que, entre guillemets, 9 000 juifs et juives de plus de 16 ans, plus 4000 enfants. Donc vous voyez que c'est les deux tiers des gens qui, au moment de la rafle, ont échappé. Alors ils ont échappé à l'arrestation parce que d'une part, il y a eu des solidarités de voisinage, mais aussi parce qu'il y a eu des fuites du service du fichier jusqu'aux équipes de policiers. Et au moment des arrestations, vous avez certains policiers qui ont fait du zèle et d'autres qui n'en ont pas fait. Certains policiers qui sont restés avec les victimes, préparez vos affaires, et d'autres qui ont dit « on revient dans 2 heures ». Et quand on dit « on revient dans 2 heures », c'est ficher le camp.
Et pourtant, vous montrez que, et vous le révélez, que Vichy et les nazis ont été furieux parce que pour eux, le Veldiv, c'est un échec.
Exactement, c'est ça le paradoxe. C'est à la fois la plus grosse opération qui a eu lieu contre les Juifs en Europe de l'Ouest. 13 000 personnes arrêtées en moins de 2 jours. Il n'y a pas d'équivalent nulle part ailleurs en Europe de l'Ouest. Et en même temps, c'est un échec pour les autorités, ce qui explique pourquoi Vichy va insister pour que les enfants partent tout de suite. Les enfants devaient
sans pas que partir. Les Allemands le demandent.
Sans que les Allemands le demandent. Parce qu'il s'agit d'une part de se débarrasser d'un problème. On a 4000 enfants sur les bras. Mais surtout de l'autre, il s'agit de gonfler les chiffres d'arrestation. 13 000, c'est mieux que 9 000.
C'est-à-dire qu'il fallait faire du chiffre.
Il fallait faire du chiffre.
À la demande des Allemands et les policiers. Enfin,
Bousquet avait promis aux Allemands le 2 juillet 1942. Bousquet, le chef de la police, avait dit « Vous aurez le nombre de juifs étrangers que vous voulez ». Donc l'idée, c'était de leur donner le maximum de personnes. Du coup, sans préserver, on le voit dans la préparation, on ne fait pas attention aux infirmes, on ne fait pas attention aux gens qui ont des services de guerre. Même le maréchal Pétain aurait pu dire « Les gens qui ont combattu pour la France doivent être protégés ». Et surtout, les gens qui ont des enfants français auraient dû être préservés, puisque Vichy disait qu'il voulait juste livrer
des juifs. Donc il y a eu des juifs réfugiés, puis des juifs français.
Non, les enfants des juifs étrangers, nés en France, à l'époque, ils sont français à titre définitif. Même Vichy ne les a pas dénaturalisés. On a 3000 enfants français qui sont livrés. Jamais Vichy n'a livré plus de juifs français que pendant la rafle du Veldiv.
Avec beaucoup d'enfants.
Hein, 4000 enfants, dont oui. 3000, effectivement, en France.
Alors, ce qu'on découvre, Laurent Joly, en vous lisant, c'est que la rafle et la traque a duré jusqu'en 1944. Absolument. Elle a duré 3 ans, parce qu'il y a eu la rafle du Veldiv, mais après, on a arrêté ici et là. Par exemple, quelques imprudents, ceux qui avaient pensé qu'ils avaient échappé, qui revenaient chez eux et qui se faisaient à ce moment-là.
Oui, les gens se disent une semaine après, 10 jours après. Puis il faut voir l'extrême précarité avec laquelle les gens se cachent. On a un grenier. Donc la tentation de rentrer chez soi est assez grande. Ce qui fait qu'effectivement, la police va continuer à faire la rafle du Veldiv. On va garder les fiches dans les arrondissements jusqu'à la fin du mois d'août. On en aura trouvé 1200 de plus, donc vous voyez, plus 9000, ça fait un bilan qui s'aggrave, et 4000 jusqu'à la fin de la guerre. Donc on voit qu'en fait, la moitié des gens recherchés ont été retrouvés.
Et dans l'ensemble, les Français et la presse ne sont pas tellement choqués, parce qu'il y avait un antisémitisme tellement répandu que ça ne touchait pas grand monde.
Alors, on ne peut pas vraiment dire ça, parce qu'autant en 41, effectivement, la population ne réagit pas quand on arrête des hommes, quand on les interne en France, mais en 42... Quand on arrête des femmes avec des enfants, qu'on les sépare, la population, même si elle a des préjugés contre les Juifs, elle est profondément choquée. Et ça, les Allemands en ont eu conscience d'emblée. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de photos publiées dans la presse.
Oui. Mais est-ce que tout Paris le savait ?
Tout Paris le savait ? Tout Paris
même
le sait.
Même les quartiers épargnés ?
Partout, on le sait. C'est une traînée de poudre. Même en zone occupée, même en zone sud, ça a un écho incroyable.
Parce qu'il y a des dénonciations aussi.
Oui, il y a eu tout, mais si vous voulez, le sentiment dominant de la population, c'est quand même d'être choqué. Il y a un rapport des RG, le 17 juillet 42, le lendemain de la RAF, qui le dit, la population parisienne est choquée.
Alors, il y a des voix qui vont s'élever dans l'église, des voix timorées, comme celle de l'archevêque de Paris, Suard, des voix fortes, comme l'archevêque de Lyon, Mgr Gerlier, mais ce qui est admirable et exemplaire, c'est l'archevêque de Toulouse, le cardinal Saliège. Et je cite sa phrase du mois de 42. « Les Juifs, dit-il, sont des hommes. Les Juifs sont des femmes, sont des évidences. Les étrangers sont des hommes. Les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères. Un chrétien ne peut oublier. » Et ça a une résonance.
Exactement, parce que c'est des mots très simples, c'est des mots basiques. Et ça a touché profondément les gens. Ça rencontrait la mentalité populaire. Le cardinal Suard avait tenté de faire une protestation à Paris, l'archevêque de Paris, mais René Bousquet, le chef de la police de Vichy, était venu à l'archevêché dans l'après-midi du 16 juillet, c'est ce que j'ai découvert, pour le détourner d'une protestation.
Et Suard dit « Ah bon, je peux comprendre, c'est 90% d'indésirables. »
Voilà, et il se fait même emboquiner.
Des voyous. des délinquants.
Robinet par Bousquet. La politique de Vichy, c'est vraiment, c'est pas de sauver les Juifs français, c'est de se débarrasser du maximum de Juifs étrangers.
Les policiers et certaines concierges qui ont été des délateurs, pas toutes, mais beaucoup, est-ce qu'ils savaient, quand il est dénoncé, ce qu'allait être la destination finale des victimes arrêtées?
Alors, ils ne savaient pas les chambres à gaz, mais ce qu'ils savaient, c'est que les Juifs partaient pour ne plus revenir. Donc on se débarrasse de gens qu'on n'aime pas.
Chaque fois que vous citez Auschwitz, vous n'employez qu'un seul mot, assassiné.
Oui, vous rendez compte de ça? C'est très juste que vous remarquez ça.
Chaque fois, vous dites, Auschwitz, ils ont été assassinés. Un tel est arrivé, il a été assassiné.
Ben oui, ben parce que c'est... On ne va pas utiliser de mots pour contourner
la
réalité.
D'autres, on emploie d'autres mots. Et assassiné, un à un, et collectivement, des assassinats de masse.
Voilà, ben je parle aussi d'extermination, je parle aussi de gazage, parce que tous les gens ne sont pas gazés. Il y a ceux qui rentrent dans le camp et ceux qui sont directement gazés. Donc, voilà.
À la libération, les tribunaux vont fonctionner. Est-ce que les peines ont été à la mesure des crimes?
Alors, vous faites bien de poser cette question, parce qu'il y a une forme d'insatisfaction. Effectivement, il y a beaucoup plus de procédures qu'on pouvait le penser, ce qui fait que j'ai trouvé beaucoup d'informations inédites. Mais c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est souvent, notamment les commissaires ou des gens qui se sont compromis à un niveau assez bas, les peines ne sont pas extraordinaires. Mais le préfet de police est quand même condamné.
Oui, oui, il faut dire. Pétain a été jugé.
Voilà, Pétain.
Laval a été fusillé. Voilà. Et Bousquet, blanchi.
Bousquet, c'est celui qui s'en sort
le procès, voilà. Oui.
Bousquet est acquitté, ce qui est un véritable scandale. Quand on voit le dossier, j'ai vu le dossier d'instruction à la suite de Klarsfeld, le dossier d'instruction est absolument accablant. Et malgré ça, on est dans le contexte de 49, il y a la lutte contre le communisme. Tout ça fait qu'il bénéficie d'un nouveau contexte et il est scandaleusement acquitté.
Après, il y aura une dénonciation tardive, mais il avait fréquenté le tout Paris. C'est vrai, François Mitterrand en parle dans le livre qu'il a fait avec Péan. Et puis sa grande explication sur Bousquet figure dans les entretiens qu'il m'avait accordé. Mais jusqu'à aujourd'hui, les présidents de la République ont été divisés sur les positions à voir sur l'État français, sur Vichy et la France. Jacques Chirac a eu la parole la plus forte. Jacques Chirac, cette phrase, on s'en souvient.
La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme. La France, terre d'accueil, terre d'asile. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau.
Laurent Joly, pourquoi revenir aujourd'hui, en 2022, sur cette stratégie, certes qui n'en finit pas de hanter la conscience nationale ou collective, mais est-ce qu'il y a un enseignement pour les contemporains, pour les jeunes?
L'enseignement qui est véritablement le fil rouge de mon livre, c'est qu'à tous les niveaux, même quand il y a une pression terrible, pression politique forte, on a toujours le choix, on a toujours des marges de manœuvre. On peut bien ou mal se comporter en situation de dictature. Et on le voit avec ces policiers, certains ont fait du zèle, d'autres non.
Oui, c'est-à-dire c'est des cas à la fois individuels, des réactions de caractère individuel, et sans que ce soit forcément collectif ou sous l'ordre d'X ou Y.
Voilà. Il y avait des ordres terribles. Il y a eu des commissaires qui ont donné des ordres très stricts. D'autres qui ont dit on a un sale travail à faire aujourd'hui, il faut le faire. Mais même au niveau des équipes d'arrestation, alors qu'ils avaient a priori très peu de marge de manœuvre, ils en avaient quand même. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça l'enseignement. On a toujours le choix et il y a toujours une possibilité de bien se comporter, même quand on est dans une situation terrible.
Et pourquoi un jeune historien comme vous s'est intéressé à la RAF du Bel Livre?
Parce que ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet-là. Et c'est vrai que je m'étonnais qu'il n'y ait pas de livre de recherche sur un sujet aussi important.
Et les documents que vous retrouvez dans les archives, etc., sont souvent des lettres, des mots qui ont été jetés du Veldiv ou de la route entre, jusqu'à Drancy et de Drancy à Auschwitz.
Oui, il y a ça. Il y a aussi beaucoup de... J'ai vu les 4000 dossiers d'épuration de la préfecture de police de Paris, ce qui m'a permis d'avoir des lettres de concierges, des plaintes de victimes, donc de véritablement incarner cette histoire.
À lire. Bouleversant. Merci. Et très précis sur la RAF du Veldiv. J'ai grassé. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Jean-Pierre Cabache, et merci à votre invité, Laurent Joly, pour cet entretien éclairant.